Je me permets très rapidement, le temps que chacun fourbisse ses questions.
Oui.
Tu parles de nécessité de consensus pour opérer des changements ou pour prendre des décisions. Or, par exemple, les fatwas, ce sont des choses qui sont très circonscrites à un territoire, à une politique.
Oui.
Donc, quand tu parles de consensus, de besoin de consensus général, enfin de consensus de toute la communauté, c'est sur quoi exactement? J'imagine que ce n'est pas sur tout, c'est sur des points de foi ou de droit absolument fondamentaux à ce moment-là. Ou sur une. Enfin, je ne sais pas, c'est sur quoi?
Oui, bon, c'est
J'ai une deuxième derrière.
une excellente question. Effectivement, la fatwa, par définition, est une question personnelle, enfin, répond à une question personnelle. Et elle n'engage que celui qui l'a posée. C'est-à-dire que s'il y a, mettons, un jeune homme dit, voilà, j'ai vu dans un supermarché en France, il y a tel ou tel produit, est-ce que j'ai le droit de le toucher ou pas? Il demande à son moufti, est-ce que j'ai le droit de le toucher? Le moufti va lui donner une réponse dans une fatwa. Mais c'est que lui seul qui est engagé par la question qu'il a posée, et pas quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, quelqu'un d'autre, son camarade, pourra poser la même question à un autre moufti, qui lui donnera une réponse différente. Donc, le système de la fatwa est un système éminemment souple et qui n'engage pas. Alors, par contre, le consensus. Le consensus s'est fait, mettons, sur le fait que le hadith était la deuxième, était le deuxième pilier sur lequel le droit musulman se reposait. Le hadith, le consensus, donc, a affirmé que, mettons, le droit se rapportant aux femmes devait, puisque le Coran l'affirme et le hadith le confirme, devait faire que, mettons, les femmes reçoivent en héritage la moitié de leurs frères, par exemple. Comment peut-on arriver à une égalité, disons, entre hommes et femmes, si on ne remet pas en cause, si on ne remet pas en cause des données de ces données scripturaires? Pour le remettre en cause, il faudrait qu'il y ait quelque chose de comme un nouveau consensus qui dirait il
D'accord.
faut interpréter ce verset, il faut interpréter ce hadith. Ça peut être donc sur des points très importants et le principal que je vois, c'est sur l'interprétation du Coran et du hadith sur certains versets comme celui que je viens de citer.
D'accord, merci.
J'ai une petite question, enfin deux même. Vous venez d'évoquer les fatwas. Ça me fait penser à la fatwa bien connue contre Salman Rushdie. Vous avez dit que c'était souple et très, très, très défini, très précis. Il ne me semble pas que cette fatwa, je crois que ça fait 30 ans maintenant ou 25 ans, n'a pas été remise en cause et qu'elle reste toujours d'actualité. Quelle est votre interprétation de cette constance, je dirais, ou de cette permanence de cette fatwa? Ça, c'est la première chose. Et ma deuxième question, c'était de bien voir la différence entre le wahhabisme, le salafisme et le soufisme. Parce que vous avez détaché, vous avez parlé de la mystique en islam et parlé du soufisme, mais j'aurais pensé naturellement mettre le wahhabisme et le salafisme dans cette même catégorie-là. Qu'est-ce qui diffère ces trois mouvements, ces trois
D'accord.
écoles.
D'accord. Alors pour commencer par la fatwa, je crois, me semble-t-il, la fatwa posée à Khomeini concernant le livre de Rushdie avait été posée, je crois, par une revue pakistanaise, je ne me souviens plus, savoir si, comment il fallait considérer cet auteur. Et la réponse de Khomeini, donc, était tout à fait claire, puisque l'auteur est apostat, il a insulté le prophète, donc il mérite la mort. Mais personne, à part celui qui a posé la question, n'est tenu d'obéir à cette fatwa. Personne. Ce qui est tout à fait étonnant dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu des milliers de musulmans qui ont adhéré à ce que disait Khomeini, bien que Khomeini fût un chiite, hein, il y a beaucoup de sunnites qui ont adhéré à ça, alors que ce n'était pas eux qui avaient posé la question, que ceux qui n'avaient d'ailleurs nullement lu le livre en question. Donc là, c'est une attitude. Du coup, ce terme fatwa a pris une connotation d'une espèce de décret.
De mort, enfin.
Oui, alors que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Il peut y avoir une fatwa concernant un mur mitoyen.
C'est une sorte de bulle papale. Enfin, je fais le parallèle à poser. Mais...
Oui, même, ou même des choses beaucoup plus humbles, hein, vous savez, vraiment des questions de propriété, de contrat, de mariage à dissoudre. Enfin bon, ça peut être vraiment de tous ordres. Et alors, par contre, la fatwa de Khomeini ramène à tout à fait autre chose, qui est effectivement l'apostasie, le fait de manquer de respect par rapport au prophète. Et comme je le disais, pour les sunnites, mais pour les chiites, c'est aussi la même chose. Le prophète, c'est vraiment... Ce n'est pas un homme comme les autres, c'est un homme qui investit une mission divine, c'est le visage de Dieu sur la terre. C'est une théophanie, le prophète Mohammed. Les musulmans ont beau dire, oui, mais nous ne sommes pas comme les chrétiens qui ont divinisé Jésus. C'est vrai, ils considèrent que Mohammed est un homme, oui, qui a vécu sa vie d'homme, mais il est investi d'une mission et d'une charge proprement divine. Ça, c'est un point qui est absolument essentiel et qu'on retrouve alors à X exemplaires s'agissant des cas, des caricatures de Charlie Hebdo et de bien, bien d'autres, une loi du blasphème au Pakistan, etc. Alors, concernant la deuxième question, oui, c'est bien important de voir qu'au fond, le soufisme et le wahhabisme, en fait, c'est vraiment deux attitudes qui sont complètement à l'opposé. Ils se livrent d'ailleurs une guerre sur Internet, parce qu'au fond, les soufis disent la présence de Dieu est tout à fait possible ici-bas. Dieu est là. Ce qu'ils cherchent, c'est le dévoilement. Dieu est là à côté, en vous, en quelque sorte. Et donc, la vie du musulman consiste à se rendre présent à Dieu. C'est de dire, au contraire, non. Il n'y a aucun contact possible entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun contact. Dieu est infiniment transcendant. Et si on veut se rapprocher de Dieu, il faut accomplir sa loi. L'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est la loi. Et donc, sous-entendu, l'obéissance aux juristes. C'est pour ça que les wahhabites en Arabie ont interdit le soufisme, ont détruit les tombes, les mausolées soufis, et que partout les courants de tendance wahhabite détruisent les mausolées, comme ça a été vu à Tombouctou au Mali. Donc il y a une antinomie très forte entre le wahhabisme, qui est au fond, c'est presque un agnosticisme religieux. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas s'approcher de lui. Et alors, quant au salafisme, c'est plutôt une tendance générale de dire qu'il faut agir selon ce que les pieux anciens faisaient. Mais c'est être salafiste, c'est simplement une façon très conservatrice d'envisager la vie religieuse. C'est un terme qui n'est pas très précis, disons. Alors que le wahhabisme réfère à une doctrine beaucoup plus structurée. Je ne sais pas si j'ai répondu. Votre question.
Merci.
Pierre, tu disais que donc le sunnisme est tenu par par le Coran et les hadiths, fait qu'il est dans une sorte de corset, en fait, hein, de textes, de jurisprudence, de développement, avec en plus donc, la règle de consensus. Et donc, ça donne une impression, finalement, si on le prend littéralement, en tout cas, on se dit, le sunnisme, c'est la même chose partout. Or, il y a des différences énormes entre un imam des Comores, par exemple, un wahhabite, comme tu as évoqué, ou un imam, enfin quelqu'un qui est originaire du Maroc, avec un islam traditionnel malikite, par exemple, ou pas. Ou alors, est-ce que c'est des différences d'apparence mais bon, par exemple, quand on discute avec un des intervenants chez nous qui est des Comores, il se reconnaît pas du tout dans un certain nombre de pratiques dites sunnites, qui pourtant sont dans ce même corset. Enfin, seraient dans ce même corset. On sent qu'il a une interprétation beaucoup plus libre des choses.
Voilà. Ça, il peut y avoir localement des interprétations plus ou moins libres, mais globalement, quand même, c'est quand même stupéfiant de voir comment le cadre rituel et légal est quand même le même. Je crois qu'il y a une unité, quoi qu'on dise, dans le monde musulman qui doit être souligné, même si bien évidemment, si on va en Indonésie, on va pouvoir trouver des variantes. Mais c'est la coutume qui fait ça, ce n'est pas le discours religieux.
Non, mais qu'il y a un cadre commun, mais après, dans les discussions entre eux, ils ne sont pas d'accord sur plein de trucs. Il y a quand même des débats entre eux, on le voit bien en France notamment, c'est complètement déchiré entre différentes façons d'interpréter les textes, la loi, et de l'incarner dans la modernité.
Oui, tout à fait. Alors là, par contre, effectivement, il y a un débat énorme, et surtout depuis deux siècles, au sein même de ce que j'appelais réformisme, ces courants réformistes dont je parle. Mais il y a des parutions de livres, mais c'est par milliers. Il y a des avis sur les forums islamiques par milliers, par millions. Donc, ça prouve bien sûr qu'il y a des dissensions. Ce n'est pas du tout une espèce d'entité lisse et où tout le monde est d'accord. Ça, c'est bien clair. C'est bien clair. Mais comme tu disais, effectivement, le cadre, lui, il est tout à fait fixe et il y a beaucoup de mal à vouloir s'en détacher. Par exemple, en principe, celui qui ne prie pas tous les jours est un apostat, il mérite la flagellation. Pratiquement dans les pays musulmans, il y a des millions de gens qui ne prient pas cinq fois par jour. Alors, on laisse faire. Hein. Il y a beaucoup de tolérance à partir du moment où, comme je disais, il n'y a pas de trouble à l'ordre public.
Oui.
Mais voilà. Donc.
La Perse qui devient chiite.
Oui.
C'est tardif, hein, c'est le 16e siècle.
Oui, oui.
Donc, c'est en réalité un acte politique, non ? Pour se différencier.
Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Alors, effectivement, on parle souvent de l'Iran comme un pays chiite. En fait, le chiisme est né en milieu arabe. Il n'y a pas du tout superposition entre culture religieuse iranienne et chiisme. Pas du tout. Ceci dit, depuis que les Séfévides au XVIe siècle ont imposé le chiisme, les deux font vraiment très bon ménage. Hein. Ils font très bon ménage. Ouais. Et alors, là, on voit véritablement une culture religieuse très différente. Je disais que dans le sunnisme, la colonne vertébrale, c'était que le prophète était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dans le chiisme, c'est non seulement le prophète qui joue ce rôle d'intermédiaire, mais ce sont les imams. Et les imams sont non seulement des êtres inspirés par Dieu, mais ce sont des êtres qui sont des apparitions divines. Ils existaient avant même que la création n'ait été engendrée par Dieu. Donc avant toute chose, Dieu a créé l'être de lumière que sont les imams. Et puis il a créé le reste du monde, et puis après il a envoyé les imams. Il y a quelque chose comme une christologie adapté à l'islam, avec cette idée que, de même que le verbe existait avant tout, en quelque sorte, et que tout a été créé par lui et sans lui rien ne fut, On retrouve quelque chose comme cela dans le chiisme. Et donc, le but de la vie du fervent chiite, c'est de rejoindre l'imam. Parce que l'imam, c'est la vérité. Ce n'est pas simplement écouter l'enseignement de l'imam, ce n'est pas seulement accomplir la volonté de l'imam. C'est rejoindre l'imam qui va lui fournir la véritable présence de Dieu.
D'accord. Ouais.
Le chiisme est vraiment une religion profondément, structurellement différente. Ce qui fait d'ailleurs que les chiites ont beaucoup plus facilement accès à la logique et aux dogmes chrétiens. Ils sont assez facilement en rapport avec les intellectuels chrétiens.
Et comment expliquer ce paradoxe alors d'avoir un régime d'ayatollah qui est archi dur quoi, sur le plan de la praxis et de l'orthodoxie justement, qui est complètement rétrograde, qui ont été les premiers à remettre en place le voile pour les femmes, enfin pas les premiers, mais en tout cas qui l'ont.
Il n'y a pas que ça. Enfin,
l'Iran, c'est quand même, oui, mais c'est quand même pas un régime très, très, très cool, l'Iran.
Non, d'accord.
Mais d'un point de vue religieux. Or, c'est bien un régime chiite, donc. Qu'est-ce qui explique ça? Enfin, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça?
Ce n'est pas un régime du genre séoudien, hein, c'est un régime parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs partis en discussion les uns avec les autres, qui sont tous des partis islamiques. Hein, mais c'est un régime quand même de discussions, de débats. C'est un régime d'universitaires. C'est le seul pays au monde où les universitaires sont au pouvoir. Et du coup, il y a entre eux des débats théologiques et politiques, bien sûr, d'une très, très grande portée, et notamment théologiques. Non, ça, le fait que l'Iran soit un pays policier ne doit pas masquer le fait que ce soit aussi un pays très, très théologique. Un peu paradoxalement, je ne sais pas si c'est paradoxal, puisque quand on a l'autorité à la fois politique et religieuse, c'est sûr qu'on est très tenté de l'exercer complètement.
C'est clair.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la naissance du wahhabisme et des frères musulmans, en particulier le wahhabisme en Arabie? Est-ce que c'est né très tôt après le prophète ou beaucoup plus tardivement?
Oui, alors le wahhabisme est né au XVIIIe siècle. C'est un courant, donc un théologien qui était en Arabie et qui a fait alliance avec un chef tribal du clan des Saouds, et l'un inspirant l'autre, ils ont créé cette entité politique saoudienne en Arabie. L'idée, c'est qu'il faut suivre la loi telle qu'elle est présentée traditionnellement, sans aucun compromis, parce que c'est une loi que l'homme doit suivre. C'est exécuter la volonté de Dieu qui prime. Dieu n'a pas à s'adapter à nos désirs. Il faut obéir à la loi divine, c'est tout. Les frères musulmans qui sont nés dans les années 1920 en Égypte, c'est autre chose. C'est un parti qui veut islamiser la société, mais éventuellement en s'y adaptant, éventuellement en participant à des ministères dans l'État, éventuellement en faisant des concessions politiques. Ça ne veut pas dire qu'ils soient très démocrates, mais ils sont tout cas prêts à participer au jeu d'un régime parlementaire. Je ne sais pas si c'est...
Oui, merci, c'est plus clair déjà.
Ah, c'est génial.
D'accord. Mais donc, on confond souvent wahhabisme et frères musulmans. En fait, ce sont deux sensibilités vraiment très différentes. D'accord. Vraiment très différentes.
Mais en fait, le wahhabisme, c'est né à
la volonté de créer une société.
C'est à la fois politique, c'était à la fois politique et religieux, dans les deux cas d'ailleurs. Ça veut dire que le wahhabisme, c'est la création d'un État en même temps que, donc exactement comme à l'époque de Mohammed, en fait.
Tout à fait. Oui, oui. Il y a en effet un mimétisme complet. Il y a un mimétisme complet, vous avez raison.
Hi, Assad.
Alors que les frères musulmans ont été créés dans le cadre de l'Égypte des années 1920, où le cadre était complètement différent.
Ou colonial. C'était
oui,
pour
c'est ça.
La colonisation ou pas forcément?
Oui, l'Égypte était pratiquement indépendante et connaissait un régime parlementaire, donc ils avaient une pensée sociale, une pensée de justice sociale que les wahhabites n'ont jamais eue.
D'accord. Merci.
Pardon. Bastien vous a mis le petit lien pour évaluer la conférence de Pierre et lui faire des retours. N'hésitez pas à le compléter si vous voulez bien.
Alors moi j'aurais peut-être encore une question si on a le temps sur les imams en France. Du coup, quels sont les différentes mouvances et pourquoi il y en a-t-il? Qu'est-ce qui est si compliqué finalement? Est-ce que la France, il y a une tradition particulière? Est-ce que c'est ça a beaucoup évolué ces derniers temps pour qu'il y ait autant de problèmes aujourd'hui?
Oui, là, on retombe toujours sur le même point, à savoir qu'il n'y a aucun clergé en islam sunnite.
D'accord.
Donc, les imams, c'est pas du tout comme les curés, c'est pas du tout comme les rabbins. En principe, l'imam, c'est celui qui dirige la prière communautaire pour que les gestes ne soient pas chaotiques. Et alors, le vendredi, il donne un serment éventuellement. Et puis, c'est quelqu'un que les gens viennent voir comme ça, mais de façon un peu informelle, dans des conseils et tout. Alors, dans les pays musulmans, c'est une fonction qui peut être rétribuée. Il existe des écoles pour former les imams. Donc, il n'y a pas de problème à ça, mais bien évidemment, en France, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il manque d'une institution française qui pourrait former ces gens qui ne sont pas des hommes de religion, mais enfin, qui jouent quand même le rôle de relais avec la population musulmane. J'ai connu des imams qui avaient un rôle, mais vraiment, de conciliateurs sociaux. C'est pas vraiment de la théologie. Je crois qu'il faut avoir bien à l'esprit que ce qui préoccupe l'immense majorité, c'est pas des questions de théologie, c'est des questions d'orthopraxie, de droit. Est-ce que j'ai le droit de manger ceci? Est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme cela? Est-ce que j'ai le droit de fréquenter des non-musulmans? Et jusqu'à quel point? Et quand on va sur les sites musulmans, les trois quarts, les 9/10 des questions, ce sont des questions nantaires, de morale sexuelle ou autre. C'est pas des questions
pratiques
de doctrine théologique. Très pratique. Très pratique. Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est interdit? Cette fameuse séparation entre ce qui est autorisé et interdit.
D'accord.